Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous invite encore une fois cette semaine à marcher vers le bien-être. Vous vous souviendrez peut-être que la saison dernière, nous vous avions présenté un fascinant projet pilote qui avait pour nom rejoindre son parcours sur Compostelle. Le but du projet était d'évaluer une formule innovante qui permette à des participants triés sur le volet de vivre une expérience ressourçante dans un contexte de nature et d'aventure. Si vous avez raté cet épisode de l'émission ou aimeriez le réentendre, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio VM. C'est l'épisode numéro 21 du 21 février 2023. Pour nous parler de cette initiative, nous avions accueilli à l'émission Anne Saint-Hilaire, fondatrice du centre La Tienda à Verdun et organisatrice de randonnées de longue durée, notamment sur Compostelle. Anne était accompagnée tout au long du projet de deux psychologues et membres de l'Ordre des psychologues du Québec. Dania Ramirez est formée dans l'approche d'acceptation et d'engagement et anime des groupes dans les cliniques médicales afin de soutenir les jeunes médecins et les équipes dans leur développement personnel et professionnel. Elle intègre d'ailleurs la pratique de la psychologie en plein air dans les activités de groupe qu'elle anime. Et pour sa part, Josée Sabourin est psychologue clinicienne depuis une trentaine d'années et a été professeure de psychologie pendant plus de 15 ans, en plus d'animer de nombreuses formations pour les groupes toujours. Elle a entre autres développé une expertise dans le soutien à la réussite d'étudiants et étudiantes en médecine. Eh bien, le projet a eu lieu, le chemin a été complété et pour nous entretenir des résultats, je suis ravi d'accueillir de nouveau nos trois merveilleuses invitées. Alors, bonjour Anne.
Bonjour Denis.
Bonjour Dania.
Bonjour.
Et bonjour Josée.
Bonjour.
C'est tellement chouette de vous retrouver les trois. Formidable. Alors Anne, avant de passer aux résultats de ce projet pilote, si on commençait par rappeler la genèse du projet et l'esprit qui l'anime, c'est-à-dire rejoindre son parcours sur Compostelle.
C'est encore, je pense, dans mon cœur, un beau projet qui vit, en fait, qui a pris naissance cette année, mais qui était dans ma tête depuis plusieurs années. C'était un projet d'aller marcher sur les chemins de Compostelle avec des professionnels de la santé mentale dans le but d'avoir des outils de réflexion pendant cette marche. En fait, je dis pendant cette marche, mais quand on fait ce genre de voyage, on se rend compte que c'est à la fin du chemin où tout se met en branle.
Ah oui.
On est vraiment content d'avoir réalisé cet objectif, ce rêve, de l'avoir mis en marche. Et c'est un jeu de mots réel pour justement le présenter. Pour avoir des belles confirmations de ce que ça apporte, ce genre de chemin-là.
Et puis, Dania et Josée, vous en étiez à votre première expérience sur le chemin de Compostelle. Comment vous avez trouvé l'aventure, Dania?
Je suis sans mots encore. Extraordinaire. En fait, c'était un rêve aussi qu'on portait depuis longtemps. De voir se concrétiser ce rêve-là, c'était extrêmement touchant, je dirais. Personnellement, ça a été une expérience extraordinaire également en termes de marche, de partage et évidemment professionnellement de voir le projet sur lequel on a travaillé pendant quelques années prendre forme, c'est extrêmement stimulant aussi d'un point de vue professionnel.
Et quel était l'intérêt pour vous comme psychologue?
Alors, c'est une question qui peut être très, très large aussi parce qu'il y a de nombreux intérêts. Le premier, c'est de faire vivre aux gens des outils, finalement, que nous, on pratique aussi dans nos bureaux. Mm-hmm. Alors, moi, comme psychologue, c'était beaucoup de faire sortir aussi la psychologie du bureau formel pour aller dans un contexte de nature et d'aventure aussi, parce qu'il y a toujours un petit volet d'aventure quand on marche. Et c'était... en fait, de voir ces outils-là prendre forme dans ce contexte-là et sortir un peu la psychologie de nos bureaux, c'est quand même un objectif qu'on avait en tête puis qu'on a vu aussi se concrétiser.
On va sur le terrain, quoi.
Oui, d'aller sur le terrain.
Dans tous les sens et du mot.
Exactement, dans tous les sens du mot.
Et José, vos impressions?
Écoutez, je porte encore ce projet. On revient de ce projet-là. Pour ma part, tous les jours, j'y pense encore. Ça m'habite et je sais que ça va m'habiter encore pour plusieurs semaines parce que c'est un lieu. Les gens viennent pour se ressourcer aussi. C'était clair également dans notre projet que on voulait mettre l'accent là-dessus. Et c'était très ressourçant. Un premier élément qui apparaît vraiment, c'était très, très ressourçant. C'était réénergisant. Et c'est aussi, comme le disait Dania, pour la dimension, disons, de notre approche psychologique, qui s'inspire de l'ACT, Acceptance and Commitment Therapy en anglais, pour, si vous voulez, oui, avoir le terme exact. Mais c'est de pouvoir justement faire cette pratique-là qu'on avait vraiment l'idée de la présence attentive dans la nature et l'aventure pour que les gens puissent l'expérimenter puis le développer afin qu'ils puissent revenir aussi. Ça, c'est un des outils, il y en avait d'autres, mais c'était vraiment un des aspects sur lesquels on voulait mettre l'accent. C'est une approche qui part du principe également que chaque personne a la possibilité de trouver en elle les ressources, faire, si elle voit plus clair, faire les choix qui sont les siens. On sait que les gens ont choisi de venir à Compostelle et de prioriser cette approche. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, pour nous, c'est vraiment une réussite là, sur ce plan-là et vraiment encore une très, très belle aventure.
C'est ça, parce que c'est une formule innovante, je le disais au début. Une des nouveautés, c'est l'accompagnement. Normalement, on y va seul ou à deux ou à trois sur Compostelle. Parfois, c'est en petit groupe, mais jamais accompagné de cette façon-là. Est-ce que vous pourriez décrire un peu le concept de l'accompagnement, justement?
Ben, si je parle pour ma part, c'était pour moi la 14e fois que je faisais le chemin portugais sur lequel on se retrouvait pour faire ce projet-là. 14 fois sur le même chemin, les clients me disaient « mais t'es pas tanné de faire ce voyage-là, toujours le même trajet ». Et au contraire, dans la perspective de notre projet, pour moi, ça s'est avéré encore plus extraordinaire parce que là, c'était pas d'une étape à l'autre, mais c'était d'une rencontre humaine par étape, les hébergeurs, par exemple, qu'on connaît, ou les gens qui sont dans la forêt, qui ont des petits kiosques. Dans le sens que le chemin de Compostelle, et on le dit toujours, c'est pas la destination qui compte, c'est pendant que tu marches,
c'est le chemin,
que ta démarche se fait. Et le projet était d'ordre de se retrouver en tant qu'humain. Alors, d'aller à la rencontre d'humains, d'étape en étape, combiné avec prendre le temps de se visiter, de se revisiter, de découvrir l'énergie qu'on a pendant qu'on marche, parce que souvent, le monde pense que 20 km par jour, c'est énorme, mais 20 km de bonheur, un pas à la fois, de se rencontrer soi-même, ça nous laisse l'espace-temps pour le faire. Alors, combiné avec des outils, justement, de réflexion, puis on s'en est rendu compte, puis on va certainement en parler dans l'émission, on a des outils papier, on a des outils audio, on a l'outil de l'introspection de soi-même, notre ordinateur mental qu'on essaie de, avec un terme anglais, « reset », pendant qu'on va marcher. Alors, ça nous fait avancer d'une façon très, très riche, très, très… Tu sais, un éloge à la lenteur, c'est un éloge à la recherche de soi au travers de ce genre de chemin-là qui est extraordinaire.
Alors, parlons-en des outils parce que dans quelques minutes, nous allons parler de la démarche, justement, du quotidien, du pas à pas, du chemin de Compostelle. Alors, vous avez parlé de 4 outils. Quels sont-ils en détail et comment les participants devaient s'en servir?
En fait, le premier outil à la base, c'est un guide papier parce que on s'est rendu compte, évidemment, en travaillant là-dessus, qu'il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup d'exercices possibles et on savait qu'on n'aurait probablement pas le temps pendant le voyage de tout faire ça. Donc, on s'est dit, mieux qu'avoir un petit guide papier, premièrement parce que les gens partent avec ça. Donc, ils vont avoir la possibilité aussi de revenir sur les écrits qu'ils ont fait pendant le voyage. Alors, ça, c'était notre outil de base. Donc, c'est un outil qui regroupait grosso modo les exercices qui allaient être présentés. Il y avait un espace aussi pour l'écriture d'un journal de bord qu'on recommandait aussi aux participants. Oui. Alors tout ce
c'est
qui
très
était
riche, là, les commentaires, le journal de bord, très important dans une démarche comme celle-là.
En fait, c'est un peu la base de la démarche parce que le journal de bord permet d'asseoir par écrit les réflexions qu'on fait et tout notre vécu de la journée finalement. Alors ça, c'est un outil qu'on a vraiment encouragé dès le départ. Donc tout ce qui était papier permettait justement d'avoir un peu plus de liberté pour les participants, de dire ben si j'ai envie à la sieste ou ce soir en arrivant à mon auberge de décrire, ben j'aurai un espace pour ça. Donc ça, c'est l'outil papier. On avait les balados qui étaient l'outil audio. Alors ça, il y avait 5 balados qui ont accompagné les participants tout au long du voyage. Donc ça, c'était essentiellement nos deux outils de base. Et évidemment, le troisième et pas le moindre, c'était notre présence à travers la marche. Donc l'accompagnement quotidien, régulier, de façon en toute liberté, parce que chaque personne avait son rythme de marche, chaque personne avait ses besoins aussi. Donc l'accompagnement s'est fait de façon formelle à travers des ateliers, et donc c'est pour ça qu'on parle d'un quatrième volet, parce que l'accompagnement a comme deux volets, le volet formel dans certains ateliers et le volet informel qui s'est vécu à travers la marche.
Et il y avait une liberté de mouvement quand même.
Absolument.
Pour les
participants. Une liberté de mouvement, puis une liberté aussi dans les outils que les gens ont utilisés. Parce que certains accrochaient beaucoup plus au balado, d'autres étaient plus dans l'écriture, d'autres étaient plus dans l'échange. Donc, on a trouvé différents canaux, finalement, pour accéder à chaque participant.
Et là, je vois José qui veut absolument mettre son grain de sel.
Oui, alors, mais comme Daniel le mentionnait, on avait dans le formel des ateliers, certains moments où les gens pouvaient prendre contact aussi avec les exercices qu'on proposait, mais également avec d'où ça vient tout ça. C'est important d'expliquer la démarche que nous-mêmes on avait derrière. Alors bien sûr des références, mais on a à travers un Zoom de départ aussi rencontré les gens. Donc
c'est ça justement. Comment ça s'est passé? C'est rencontre préparatoire.
Ben la première rencontre de Zoom justement à laquelle on a assisté, on a eu la chance de rencontrer toutes ces belles personnes qui ont été avec nous pendant le trajet, parce que chacun dans le fond a ses vous savez, chacun a son souhait, a ses raisons de faire Compostelle, et on avait envie de connaître les personnes. Donc ça a été une belle occasion de les connaître, c'était très riche. Déjà les échanges en partant, les gens tout de suite ont ouvert et ont dit ben moi, voici, c'est la raison pour laquelle je voudrais faire Compostelle. Et nous, on en a profité pour présenter nos outils. Donc, vraiment, une première rencontre qui était déjà en partant centré sur l'ouverture, et ça a déjà commencé à créer l'ambiance dans le groupe et le sens aussi.
Et c'était qui ces personnes? Je suis curieux, le profil des personnes.
Alors, on avait un groupe assez hétérogène, dans le fond, mais je dirais que les points communs de ces personnes-là, c'est le goût de la marche, premièrement, et le goût de la réflexion aussi. Dans le fond, c'est ce qui s'est tout de suite dégagé.
Et les deux vont bien de pair.
Oui, l'envie de se retrouver ensemble dans la nature, l'envie de marcher ensemble et l'envie de réfléchir ensemble. Alors, comme pour ma part, je trouvais que cette rencontre-là préparatoire a fait toute la différence dans le reste du voyage, parce que ça a permis d'aller chercher pour chacun un peu les motifs, de nommer, de verbaliser pourquoi ce projet, pourquoi ils étaient là. Et ça a vraiment permis de créer un lien avant le départ. Et on l'a senti dès l'aéroport qu'il y avait un lien qui était déjà créé. Donc, c'est sûr que ça, cette rencontre-là était quand même essentielle là, pour la suite.
Et c'était des personnes plus âgées, plus jeunes, professionnelles, tout acquis.
Très hétérogène Il y avait différents groupes d'âge.
Hein, la quarantaine à cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, donc très variés.
Des gens à la retraite, des gens qui étaient encore au travail.
Des gens en réflexion, travail aussi.
Ça le permet. De transition, parce qu'on est. C'est encore un peu l'effet de la pandémie, là.
Absolument, absolument. Puis on en a parlé dans les tout au long du parcours de cette pandémie.
Les gens étaient heureux de vivre cette expérience puis de sortir de la pandémie et un peu comme de profiter de ce moment-là pour replacer des objectifs, des aspects qui sont importants dans leur vie. Donc, toutes les personnes, qu'elles soient à la retraite ou qu'elles soient en train de travailler, avaient un peu ce besoin là de voir vers quoi je m'en vais, quelle est la direction que je veux prendre aussi à la suite, et s'arrêter simplement.
Changement de carrière, parce que après la pandémie, il y a pas mal de gens qui étaient un peu stressés, disons. La vie est un peu plus difficile pour certains que pour d'autres. Hein?
Oui, il y a l'ombre de cette pandémie-là qui va rester encore pour plusieurs années. Et pendant la pandémie, le temps passe, les années avancent, il y en a qui changent de dizaines. Les réflexions sont là, le concept familial, le concept professionnel, le concept du futur. Et je pense que ce genre de voyage-là permet justement un bon grand temps de réflexion, parce que les journées, on les marche, on a du temps. On échange énormément aussi pendant ce genre de voyage-là, qui était aussi l'échange, puis tu en as parlé, Daniel, l'échange, c'est un outil qui aide à avancer. Le jeu de mots est encore à tous les niveaux. Et on parlait des préparations, on a eu le Zoom au niveau du projet en tant que tel. Mais je rajoute aussi les formations au niveau de l'équipement, au niveau des pratiques. C'est pas à négliger aussi dans le lâcher prise du volet de la peur. Est-ce que je serais capable de faire ce genre de voyage-là, tous ces kilomètres-là? Et ça apprend en même temps le lâcher prise et faire confiance au chemin et d'être dans le minimalisme. Offre la gestion de son émotion au lieu de la gestion de l'équipement, du « en cas que », de « qu'est-ce que j'aurais l'air » et tout ça, parce qu'on est dans un monde de surconsommation. Alors, ce genre de voyage-là qui se veut partir avec presque rien, mais avec ton « tout toi »,
c'est une nouvelle expression
que je sors là.
« Tout toi ».
Ton « tout toi » que tu transportes. C'est joli. Oui, c'est joli. Jusqu'à ton toit où tu te retrouveras.
Oui. Alors, vous aviez une belle cohésion. On a évacué les peurs et il y avait beaucoup d'anticipation avant de partir.
Puis, en fait, comme Anne dit, je trouve que l'aspect de la préparation, autant dans le Zoom, ça a été important, mais pour reprendre les propos, c'est vraiment essentiel pour pouvoir réfléchir. Parce que quand on a le bon matériel, quand on n'a pas à réfléchir à tous ces détails-là qui prennent l'espace mental puis de la charge mentale. Donc moi, un des aspects qui m'a frappé, on va sûrement en parler, c'est la charge mentale qui n'est plus là tout d'un coup parce que tout a été préparé. Donc l'aspect de la préparation, que ce soit physique, psychologique ou logistique, que Anne nous a offert aussi dans toute la préparation du voyage, c'est essentiel pour pouvoir permettre à peu près la réflexion et d'être libéré de cette charge mentale-là.
Alors, nous sommes à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Dorval. Dans quelques heures, nous partons. Une petite pause musicale. On atterrit et puis on commence le voyage. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Anne Saint-Hilaire, fondatrice du Centre La Tienda à Verdun, de même que Dania Ramirez et José Sabourin, toutes deux professionnelles de la santé mentale. Alors, nous atterrissons. Et voilà, ça y est, comment on sent, là, on met les pieds ou les roues sur le sol, les pieds sur le sol. Comment on sent à l'arrivée le groupe vous-même?
Je dirais que le premier mot, c'est l'excitation. Oui. La fébrilité, le goût de découvrir. En fait, c'est très particulier parce que la première journée, on est un peu comme en adaptation, hein, dans le fond, le décalage horaire. Ce qui est très particulier, c'est un peu le fait de pas sentir. En fait, moi, je parle pour moi personnellement.
Oui.
Je trouvais qu'on sentait peu la fatigue cette journée-là. Il y a comme une euphorie de l'expérience qui va se déployer, où là, on est complètement, tous nos sens sont éveillés. Moi, c'est un peu comme ça que je dirais que je traduis l'expérience. Les sens sont éveillés, la curiosité est au rendez-vous parce qu'on a envie de connaître l'autre. Il y a plein de nouveaux êtres humains autour de nous qu'on ne connaît pas.
Et on a plein d'images en tête de notre préparation.
Et là, c'est toute l'excitation de voir comment ça va se passer, comment ça va partir, et la fatigue, curieusement, est pas au rendez-vous à ce moment-là, parce qu'il y a trop d'excitation.
Alors, à partir de l'aéroport, où on va, on fait quoi? On s'installe rapidement?
Ben, il y a un autobus qui vient nous chercher.
Oui.
On atterrit tout à Porto. Tout est organisé.
Aucun souci.
Non, c'est ça, c'est de laisser couler le temps. Mmh. Hein? C'est ça la beauté de l'expérience aussi, de l'accompagnement que j'apprécie avec les années. L'accompagnatrice dont je suis et dont j'ai une équipe aussi, on a le grand privilège et le grand plaisir d'offrir aux participants le lâcher prise comme quand on était enfant. Tu sais, quand on est enfant puis qu'on part en voyage avec les parents, c'est eux autres qui ont tout organisé. Et nous, on ne fait que suivre. Puis là, si la France dit, ben j'ai faim, ben, tu t'arrêtes puis tu manges. Tu veux dormir, tu fais une sieste. C'est vraiment, vraiment se retrouver comme les enfants. C'est sûr que le départ du voyage, il y a arrivé l'autobus, l'hôtel, l'inscription, ces thématiques-là, bien sûr, mais on en profite aussi pour faire découvrir les lieux où on va passer, comme Porto. On prend le temps de visiter Porto. Puis après ça, ben l'aventure commence le lendemain avec l'excitation du départ. Et pour les participants, c'est normal et c'est comme ça à tous les groupes. Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je vais me perdre? Est-ce que je vais bien trouver l'endroit où je vais dormir? Est-ce qu'il y aura quelque chose à manger sur le chemin? C'est questions fondamentales. Après 1 heure, 2 heures sur le chemin, c'est réglé. C'est parti parce qu'on voit qu'on n'est pas isolé dans une partie du monde où il n'y a rien. Alors là, on décroche et ça devient le début du chemin.
Et on souffle et on respire, comme
on
jamais.
On souffle et on respire. Et notre travail d'accompagnatrice, c'est de ralentir les participants pour la partie qui est « Est-ce que je vais vraiment trouver l'endroit où je vais dormir ce soir? »
Oui, oui.
Les premières journées sont comme ça.
Donc, justement, on parle d'accompagnement et on parle d'outils. C'est tout à fait nouveau comme formule. Comment ça se passe, les premières journées, au jour le jour? Là, comment on marche ensemble, comment on se sert des outils, là. C'est quoi le déroulement? C'est quoi le fonctionnement?
D'abord, on rencontre les gens, hein? On a tout de suite envie de connaître les personnes avec qui on va marcher pendant 3 semaines. Mais ce qui est magnifique, on arrive à la ville de Tuy. Cette fois-là, je me souviens encore du moment du départ où tout le monde part. Et première journée, Anne nous dit un bel endroit où on pourrait faire une première balado. Écoutez, donc, une méditation, marcher dans la nature.
Marcher dans la nature, c'est le thème de la balado.
Exactement. Ah. Ben, en fait, c'est de connecter à soi. C'est vraiment toujours cette pratique de la pleine conscience. Et donc, on l'expérimente, tout le monde, et on se permet de dire, d'accord, on y va, on marche, et tout de suite, on a cette expérience, la première journée, avec ces moments de contact dans la forêt, qu'on a retrouvé à différents endroits. Donc, dès la première journée de marche.
Donc, vous marchez dans la forêt avec balado.
Effectivement.
Et vous êtes en groupe ou individuel, ou en fait un peu de liberté aussi, mais...
Je pense que chacun est un petit peu dans sa bulle à ce moment-là, parce que la balado, c'est avec des écouteurs, donc c'est sûr que chacun rentre un peu dans son propre soi, là, et c'est ce qui est souhaité. Alors, tout le monde le vit d'une façon différente, mais effectivement, rapidement, on souhaitait pratiquer déjà les balados, et tout ça était accompagné de certains exercices qui étaient guidés.
Ouais.
Alors...
Par vous, là, c'est ça?
Oui.
C'est ça.
En fait, c'est que presque chaque jour, les gens avaient comme des consignes particulières ou portaient l'attention. On avait, par exemple, un exercice sur la métaphore, par exemple. Et ça, le matin, comment ça se passait souvent, c'est qu'on avait un groupe aussi virtuel là, sur un chat.
Oui.
Et il y avait des consignes qui étaient données par Anne, très logistique, pour la journée suivante. Et nous, on avait aussi un peu nos consignes pour la réflexion. Mmh. Et là, était présenté souvent un exercice qu'ils pouvaient retrouver dans le guide. solide et sur lequel on les encourageait finalement à se laisser aller la journée suivante. Donc, comment ça se passait? C'est que le matin, il y a toujours un petit départ. Donc, on répétait le petit rassemblement du matin.
Le programme de la journée.
Oui, où le programme est adressé. Et là, on se permettait vraiment de revenir sur l'exercice et par exemple l'exercice la métaphore, c'est simplement de trouver dans la nature des analogies avec leur état intérieur finalement, ou avec quelque chose qui les touchait particulièrement. Puis on en avait plusieurs exercices comme ça. Donc à chaque jour, il y avait quand même un objectif de réflexion. Et après ça, ben les gens partaient à la marche et on en discutait à différents moments de la journée.
C'est exactement. Puis si on veut faire une image d'une journée type, justement, bon, il y a le pratico-pratique là, du lever, du déjeuner, du rassemblement pour sortir de la ville. Et comme José le disait, on a des points quand même précis sur le trajet où on sait qu'il va y avoir des forêts, des sentiers, des variantes. Et on fait un travail extraordinaire, justement, de nous expliquer à un point précis, bon, à partir de maintenant, on pourrait écouter le balado, c'est des suggestions, et on le dit tout le temps, ce ne sont que des suggestions fortement proposées, dans le sens que ils sont là, on a des outils, et là, on écoute les balados, et on peut les réécouter, parce que c'est des balados qu'on a téléchargés dans nos téléphones, et c'était ça aussi qui était important pour moi, puis je pense pour Daniel et José, que ce soit libre. On peut les écouter une fois, on n'est pas obligé de les écouter, on peut les écouter trois fois. Ils sont tout le temps disponibles et c'est à chacun d'aller chercher. Mais moi, en tant qu'accompagnatrice qui le fait depuis longtemps, j'ai adoré voir cette introspection automatique de quand le monde a reçu la consigne du balado, de qu'est-ce qu'on va visiter.
Oui.
Et là, ça rentre comme dans une transe.
Oui.
Ça marche. C'est le silence. C'est, on le voit, le monde, on le regarde dans la nature, mais en dedans d'eux autres, en même temps. Dans le silence, c'est vraiment, c'est à vivre, c'est extraordinaire comme outil aussi. Puis on a l'impression, quand on écoute le balado, de faire partie intégrante de la nature.
Je reviens un tout petit peu en arrière parce que les balados, vous les avez préparés évidemment avant de partir. C'est tout un exercice de projection en même temps, j'imagine, là.
Ben, en fait, nous, on a été formés dans l'approche ACT. Donc, dans cette approche-là, il y a plusieurs, parce que des balados sur la présence attentive, il y en a plein. Donc, nous, on avait déjà une grille dans la façon de présenter les éléments. Oui. Et il y a une structure, en fait, qui est déjà proposée quand on fait ces exercices-là. Donc, c'est sûr qu'on est parti avec cette structure-là. Et après ça, évidemment, on est allé en studio. Donc, on a laissé aller notre imaginaire. Et pour nous, c'était quand même une expérience intéressante. Parce que nous on s'écoutait pendant le parcours, on a réécouté les balados avec le groupe et évidemment c'était très riche aussi de voir que les images qu'on avait décrites se retrouvaient effectivement sur le chemin.
Formidable.
Donc je pense qu'on a visualisé un peu la nature à laquelle on pouvait s'attendre et puis on est parti là-dessus, mais évidemment avec notre structure de comment se déroule un exercice de présence attentive.
Mais oui, et José, est-ce que le guide servait pendant cette première semaine aussi ou le journal de bord?
Le journal de bord, en fait, il servait tous les jours ou tous les moments que les gens pouvaient utiliser pour vraiment s'arrêter. Parfois, c'était davantage parce que pendant la première semaine, il y a le défi des trois premiers jours. Moi, je peux parler du défi physique quand même des trois premiers jours qui a été au rendez-vous.
La décalage horaire, etc.
Pour moi. Parce que bon, j'ai eu les fameux défis des ampoules. Et puis, donc c'est connu hein, sur le chemin de Compostelle, mais bon, il y a toutes sortes de moyens de s'aider pour ça. Mais après trois jours de marche, qui était absolument magnifique, on a vu la mer, ou malgré tout, il y a tout le temps cette dimension-là, on arrive à une journée de repos. Et là, c'est là qu'il y a eu un atelier les gens pouvaient aussi partager et réfléchir à partir de leur journal de bord sur ce qui était important pour eux et finalement intégrer ces trois premières journées-là parce que là, on était à se préparer pour s'en aller à Saint-Jacques. On était déjà à moitié du chemin avant d'arriver à Saint-Jacques. Donc, il y avait cette idée de qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe et puis c'est sûr que les défis physiques, ben ils sont intégrés à la suite. Comment ça va se passer? Alors, les trois premiers jours, c'est plus exigeant. Puis les trois jours suivants sont exigeants, mais ils sont plus agréables, disons. Ils sont vraiment plus agréables.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les participants et vous-même, vous trois?
Beaucoup. Beaucoup plus que ce que je m'attendais. Oui. J'avais l'impression que les gens marcheraient un peu dans leur bulle, mais non, il y avait une telle ouverture que ça se faisait naturellement et plusieurs personnes posaient des questions sur le journal, sur on a beaucoup parlé des balados et du sens qu'est-ce que ça venait chercher pour chacun. Et ça, ce qu'on a observé, c'est que ça se faisait plus individuellement qu'en groupe. En groupe, c'était plus didactique, je dirais. On a oui. présenté la matrice, entre autres ACT, sur laquelle qu'on a proposé au départ, mais les échanges profonds se faisaient plus de façon individuelle. Et après ça, en groupe, on avait plus des échanges didactiques, disons, sur les outils. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis c'est là, en fait, qu'on a eu des moments, des précieux moments de qualité, là, de réflexion.
Des petits bonheurs.
Oui, exactement.
Ah oui, formidable. Alors, c'était la première semaine, donc grosso modo, balado, guide, journal, échange et tout. Et on arrive à Saint-Jacques de Compostelle. C'est un choc. C'est une belle découverte pour certaines personnes, j'imagine.
Absolument, Saint-Jacques. C'est vraiment un moment très précieux. C'est sûr, chacun le vivait différemment, mais il y a tout de suite, on connecte sur le lien avec ce que je pourrais appeler le concept d'humanité partagée, tiens. Donc, on a des liens avec des gens de partout dans le monde qui arrive, eux aussi.
C'est ce qui fait la richesse du chemin de Compostelle.
Oui, alors il y a soi, il y a le groupe, mais il y a les autres, il y a les gens. Et on dirait que c'est comme si on se retrouve avec plein d'autres humains de partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment riche, c'est important. Et chacun le vit différemment. Il y en a qui vont à la cathédrale. Bon, moi, j'ai été à la cathédrale. C'était vraiment un moment qui a été magique pour moi. Mais il y a aussi des gens qui vont le vivre à leur manière. Donc, c'est vraiment très ouvert et c'est une ambiance qui nous fait presque le lien, je dirais, historique avec le Moyen-Âge, mais aussi cette ambiance du aujourd'hui, très, très actuelle, dans un monde d'ouverture d'esprit.
C'est émouvant comme...
C'est très émouvant comme moment, effectivement, parce que c'est comme si un peu l'aboutissement, puis le chemin est pas terminé, hein.
Non.
C'est ça qui est particulier.
On est à mi-chemin.
Oui. Alors, il y a quelque chose dans le... C'est comme si c'est l'aboutissement de quelque chose, parce que c'est l'arrivée à Saint-Jacques, mais ce n'est pas terminé. Alors, il y a comme, OK, c'est la fin, mais il y a quelque chose qui se poursuit en même temps. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de le voir aussi comme une étape. Oui, l'aboutissement, mais l'étape de quelque chose qui se poursuit. Donc, la réflexion est pas terminée. Et souvent, les personnes rendues là, il y a plusieurs gens qui ont une quête, qui ont une question, qui ont un sens à aller chercher et qui attendent aussi. On a parlé beaucoup avec les participants de cette attente-là du quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer quand on arrive à Compostelle? Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi? Et on a parlé aussi avec les autres voyageurs qu'on croisait sur la route. Et plusieurs nous disaient, il se passe rien comme tel. Et on cherche. Mais les outils qu'on donne, c'est des portes qui s'ouvrent. Moi, je vois ça comme des portes qui s'ouvrent et non pas une finalité ou une réponse. Et tout ça, tout ce qui se mijote à l'arrivée à Compostelle et dans la suite du chemin, c'est peut-être rien qu'au retour, finalement, que ça prend forme dans la tête de chacun. Je le résumerai comme ça.
Oui, puis c'est bien que tu l'aies nommé, qu'il se passe rien quand on arrive à Saint-Jacques. Par contre, c'est une longue étape. Hein. Je pense que tous les participants de tous les voyages, l'entrée à Santiago par le chemin portugais, c'est une très, très longue journée. C'est une étape de 28 à 30 kilomètres, difficile à l'arrivée. Et je trouve que elle est à l'image de ce qu'est la vie. C'est comme Dédé Fortin, il disait, la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. L'arrivée à Santiago, c'est une longue journée qui par moment nous paraît difficile et rendue à la fin, une fois qu'on est arrivé, ben on est arrivé. On s'attendait à une explosion de quelque chose qui se révélerait, mais c'est comme ça la vie. C'est à chaque jour qu'on se lève, avoir un objectif de bien vivre notre journée, d'arriver et de dire, OK, maintenant, c'est quoi mon projet, mon prochain projet?
La prochaine étape. Oui. Mm-hmm.
Et
oui, oui.
J'aime bien l'image, moi, quand le monde me dit une journée à la fois, je la trouve longue, la journée, pour avoir subi quand même une maladie. C'est un projet à la fois qui te fait avancer. Et là, tu es fier de l'avoir fait. Alors, Saint-Jacques, ça nous amène ce côté grandiose de passer au travers le temps.
Et on passe une journée ou deux, on écrit dans son journal de bord, regarde autour, on absorbe, on intègre.
Oui. On a le temps de se déposer parce que le lendemain, on passe la journée dans cette merveilleuse petite ville qui inspire vraiment la réflexion et on a l'impression que le présent puis le futur
il y a beaucoup d'énergie.
Le passé, présent et le futur se rejoignent.
Il y a vies qui sont passées par là.
Exactement. Fait que c'est un endroit vraiment propice à la réflexion.
Donc, la deuxième semaine, vous me disiez, c'est peut-être la plus intense, c'est le cœur de la démarche. Qu'est-ce qui se passe pendant cette deuxième semaine?
En fait, c'est la suite.
C'est simplement la suite. Même chose, ouais.
C'est le parcours.
Même démarche.
On continue à rejoindre son parcours pour reprendre le titre de notre voyage. Donc, c'est la suite et c'est l'accumulation d'expériences. On commence à, sent là que la cohésion du groupe est là. On peut se déposer. Comme Anne nommait tout à l'heure, on sait que l'aspect logistique, on n'a plus d'inquiétude là-dessus. Notre matériel, on le connaît. On connaît comment placer nos choses, ce qui a quand même un apprentissage là-dedans. Alors, on dirait que la deuxième semaine, c'est paisible. C'est comme si là, on peut vraiment se déposer. Okay. Moi, j'ai senti parce que nous, on était, José et moi, Anne, ça fait longtemps qu'elle fait le chemin, mais nous, pour nous, c'était nouveau. Et on était des animatrices, mais on était aussi des participantes. Mm-hmm. Donc, on a vécu les deux à la fois.
Les deux expériences.
Et ça, c'était quand même un défi par moment. Ouais. Mais à la fois, ça nous a permis justement de vivre les deux expériences en même temps.
José, comme accompagnatrice, encore une fois, c'est quoi l'expérience, les échanges, surtout la deuxième semaine?
L'expérience, je dirais, on parlait tout à l'heure de comment Saint-Jacques est une étape parmi une autre, hein? Même si c'est un endroit merveilleux, on dirait qu'effectivement, on attend quelque chose encore. Et moi, j'ai commencé à poser des questions aux gens la deuxième semaine. Et puis, est-ce que vous vivez ça? Pour le côté participante comme moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de réponse encore. Il n'y a pas quelque chose qui se passe. Oui. Et c'est vraiment partagé par beaucoup de gens. Donc, l'idée, en fait, c'est plus cet aspect-là. On va souvent dire, c'est ce que les gens mentionnent sur le chemin quand on rencontre du monde. Quand on arrive à Saint-Jacques, on va déposer quelque chose de nous. Mm-hmm. Mais en jasant avec des gens, certains disaient on va prendre des choses aussi. Des fois, c'est pas seulement déposer, mais ça peut être prendre quelque chose. Alors les gens, on ouvrait ça, mais c'est vraiment l'espèce, c'est un peu comme si on était là, on était vraiment en fait en présence attentive et on se dit on va rester ouvert s'il y a quelque chose qui se passe. On pense qu'on va prendre des décisions, c'est pas nécessairement ça qui se passe. C'est vraiment plus le fait de le vivre en présence attentive au quotidien. Et là, on profite encore plus de la nature, des paysages. Et vous savez, on s'en va vers Finistère. Et moi, j'avoue, ça a été
le bout du monde.
Très, très gros coup de cœur pour moi.
Oui.
Et la mer, j'aime beaucoup la mer. Donc, mais chacun a ses métaphores, justement. Donc, on arrive à Finistère et c'est le bout du bout. Et ce n'est pas encore fini.
Puis, on parle beaucoup des bienfaits de la nature. On a parlé beaucoup de ça dans la préparation. Oui. Dans l'autre émission, quand on est venu, on a documenté toute cette partie-là. Et je trouve qu'à la deuxième semaine, on commence à vraiment les ressentir, les bienfaits de la nature. Il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà. Oui, il y a la présence attentive, il y a le contact à l'autre, mais il y a le fait de se retrouver dans la nature. Toute cette vitamine D qu'on capte, et là, on sent la deuxième semaine, une espèce de bien-être, une espèce de liberté et un sentiment, pour l'avoir partagé avec plusieurs, de faire partie d'un tout et d'être pas un observateur de cette nature-là, mais une partie d'elle-même. Et ça, c'est magnifique. Quand on arrive là, dans le parcours, là, on dirait qu'il y a des... Là, encore là, pour reprendre l'image des portes qui s'ouvrent, là, là, il y a des petites portes qui commencent à s'ouvrir pistes de réflexion parce que l'état de bien-être est tellement grand qu'il y a une place. Maintenant, enfin, il y a de la place pour justement laisser émerger tout ça. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe la deuxième.
Ce que je trouve intéressant, c'est que vous deux, Dania et José, c'est votre première expérience, comme la plupart des participants ou tous les participants. Donc, il y a cette affinité, cette relation qui est tout à fait spéciale. Vous pouvez, il y a une empathie qui se crée dès le départ. Vous êtes dans le même bateau,
absolument,
sur le même chemin.
Oui, absolument.
Là.
Puis on l'a élaboré aussi ensemble, le projet avec Anne aussi. Et souvent, on se retrouvait toutes les trois aussi pour discuter de ce qui est en train de se passer. Donc oui, comme il faut aussi être ensemble dans tout ça pour être capable de partager aussi avec les autres.
Anne.
Je pense que ce parcours-là, il est tellement idéal pour le genre de projet parce que il est physiquement, là, géographiquement parlant, je trouve conçu pour une démarche comme celle-là. Au début, la première partie jusqu'à Saint-Jean, qu'on est vraiment dans le côté urbain. Si on se retrouvait dans notre vie quotidienne de genre Montréal ou Québec directement dans la nature, il y a comme un clash qui se ferait dans la progression de la réflexion. Là, on part du décalage horaire, de la grande ville de Porto, on marche, on est vraiment dans un côté urbain, on arrive à Santiago, à Saint-Jacques, et là, justement, on a la fébrilité de cette étape grandiose qu'on vit. Pour après ça, poursuivre vraiment, comme vous le disiez très bien, dans la nature. On est des êtres de nature. Et le côté de décanter son chemin commence. Et on l'entendait, je l'entendais avec les participants aussi. Je veux pas que ça se finisse. Ça, c'était vraiment des paroles. Parce que là, on a du temps sans stimulation sensorielle urbaine pour nous déranger dans notre réflexion. Fait qu'on est connecté vraiment avec l'énergie de la nature. Absolument. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'océan, jusqu'à Finistère, jusqu'à Mouchia.
Ouais. Où on le sent vraiment très bien.
On le
bien.
Sent, c'est tranché comme une brume. Là,
vraiment.
Qu'on peut,
vraiment. Et là, les exercices perception. De présence attentive sont encore plus faciles. Ouais. À vivre et à expérimenter.
Observer.
Et on voit que les gens ont cette ouverture-là aussi dans le groupe de dire « Ok, mais on en veut plus, donnez-nous-en des exercices, là. On veut en faire. » Fait que ça, c'est le fun.
Mm-hmm. Oui, et les participants aussi, en même temps que nous vivions quelque chose de semblable, effectivement, ça nous permettait de comprendre encore plus qu'est-ce que tout le monde vivait finalement. Hein, ça aurait été différent si ça avait été dans un autre contexte. Eh bien, ça permettait aussi aux participants de co-construire avec nous. Exemple, les exercices qu'on faisait, si on envoie une métaphore, quand les gens envoyaient à l'ensemble du groupe une métaphore, mais eux aussi participaient de l'ensemble. Donc, nous, on voulait offrir cet espace-là pour qu'il y ait un échange aussi entre les participants.
Alors, vers la fin, si j'ai bien compris, il y avait aussi des ateliers ou est-ce que ça faisait partie de la démarche? Y avait-il des ateliers précis à la fin?
En fait, surtout un atelier qu'on a eu à Mouxia, dans le fond, au bout de ce voyage-là, où là, on trouvait que c'était super important de prendre un peu plus de temps que à l'habitude pour juste faire un tour de table, voir ce que tout le monde retirait de cette expérience-là et s'il y avait des questions aussi sur les outils, parce que malgré tout, c'est un voyage qui est très riche et très chargé en kilomètres, en expériences, en toutes sortes de belles choses qu'on vit, et les outils doivent être approfondis aussi. Donc, c'est sûr que là, on a essayé de répondre finalement aux questions que les gens pouvaient avoir sur les outils et sur ce qu'on avait peut-être moins eu le temps de présenter durant le parcours. Et donc, cet atelier-là était quand même très important parce qu'il nous a permis de faire le tour. Puis ça a permis à tout le monde aussi de un peu comme refermer un peu la boucle.
Faire le point. Là,
faire le point. Oui. Et avec quoi tout le monde partait, puis évidemment les questions aussi précises aussi sur des outils en particulier.
Alors je vous dis, on était triste au départ, c'est ça.
Ben, c'est sûr.
Comment c'était à l'aéroport?
À l'aéroport, ben nous on a quitté un petit peu plus tôt, donc on a pu voir les gens, tu sais la veille si on veut là du départ. Et donc oui, c'était absolument triste de penser que le voyage aussi se finissait. C'était vraiment comme si on était dans un espace où on aurait voulu que ça dure encore. C'est encore le souhait qu'on a maintenant. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens ont envie de poursuivre. Donc, Moi, je le vois toujours comme ça. Hein. Un deuil, ça permet, on appelle ça un renoncement nécessaire aussi. Donc, un renoncement qui permet de vivre autre chose.
Parce qu'il y avait une communion de cœur, d'esprit, là, pendant.
Absolument. Passer 20 jours avec les gens, des gens qu'on connaissait, qui se connaissaient pas entre eux au départ et qui, là, ont développé des liens entre eux. Il y a ces liens-là qui sont précieux, qu'on sait qu'on retrouvera pas rendu à Montréal parce que certaines personnes avec qui on a échangé, ben, demeurent loin, par exemple. Donc, il y a comme tout ça à intégrer. En même temps, à la fois, on le sait que le voyage tire à sa fin. Donc, il y a aussi le goût aussi un peu de... C'est comme si à la fin, on sait que c'est terminé. Donc, on a envie aussi de reprendre un peu, de retourner un peu dans nos univers respectifs. Et puis chacun, nous, on avait un autre voyage après. Chacun avait d'autres choses après. Donc, il y a comme la faim qu'on sentait, mais en même temps, la tristesse aussi de dire, ouais. OK, certaines personnes vont être loin, on pourra plus se voir. Par contre, ce qui prend le dessus malgré tout, c'est le bonheur de tout ce qui a été partagé et de toutes ces images-là avec lesquelles on part. Donc, même s'il y a... Pour moi, c'était pas tant la tristesse qui était le sentiment principal, mais plus la satisfaction d'avoir vécu ça et la gratitude. Moi, c'est la gratitude qui me venait beaucoup à la fin. Et la gratitude d'avoir été, d'avoir pu guider un groupe d'êtres humains dans la réflexion, pour moi, c'était beaucoup, beaucoup de gratitude.
Anne, vous avez vécu beaucoup de départs comme celui-là. Il était différent, celui-là?
Le départ à la fin du voyage?
Oui.
Il y avait la différence qu'il y avait des outils de réflexion et que je sais que certains poursuivent ces réflexions. Je sais aussi que des participants de ce voyage-là reprennent le chemin. Ils ont le goût de recontinuer, de refaire. Je pense que tous les voyages d'une vie, on a un genre de nostalgie, mais en même temps, une très, très grande joie de ce qu'on a vécu, puis on en ramène ces souvenirs-là. Je pense que Compostelle a cette particularité de la longueur dans le temps, dans chacune des journées, dans les kilomètres. Et je regarde toujours les visages des gens, le cœur, ils reviennent. Ceux qui l'ont fait, s'ils ont quelqu'un qui les attend à la maison, on sait qu'on peut pas, ça se raconte pas ce genre de voyage-là, ça se vit. Il y en a qui l'ont fait ensemble, il y avait des amis ou des couples, c'est plus facile à échanger parce qu'on peut comme poursuivre le voyage avec ça et sinon ben on le refait. Mais oui, je suis contente, c'était une première, hein.
C'était un projet pilote.
Ouais. On apprend, oui. Je veux dire, c'était impossible que ce soit parfait la première fois, ça aurait été c'est impossible. Par contre, on sait maintenant qu'est-ce qu'on pourra faire mieux, qu'est-ce qu'on pourra faire et ne pas faire ou améliorer, adapter.
Oui.
Échanger, préparer et le après aussi fait partie de notre suite de ce projet-là.
Et justement, nous allons en parler dans quelques instants après une autre petite musique de marche espagnole sur les chemins de Compostelle. Nous sommes toujours en compagnie de Anne Saint-Hilaire, fondatrice du centre La Tienda à Verdun. et Daniel Ramirez et José Sabourin, tous deux professionnels de la santé mentale. Alors oui, nous avons appris beaucoup de choses, José, pendant ce merveilleux voyage. C'est quoi les grandes constatations, les grandes leçons apprises?
J'aurais envie de donner quelques mots qu'on a pu entendre des participants. Je pense entre autres à des commentaires comme « Quand je suis revenue, les gens m'ont dit que j'étais changée, plus énergisée, plus de vitalité. Et surtout, les gens m'ont dit que j'étais plus moi-même. » Et ça, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve qui me réjouit profondément comme psychologue, c'est certain.
C'était un peu le but du voyage, peut-être.
Mm-hmm. Oui, c'est sûr que cette approche, qu'on disait rejoindre son parcours, c'est continuer à travers qui on est. Et puis oui, se permettre d'être encore plus soi-même. Donc, pour un des bilans pour moi qui est le plus intéressant, je pourrais dire sur le plan psychologique, c'est d'entendre justement ce genre de témoignages, mais c'est aussi de l'avoir vu concrètement chez les gens et d'avoir été dans cet échange-là avec les personnes qui se disaient, moi, j'ai des choix à faire dans ma vie. Qu'est-ce que je veux faire pour la suite? Et qui réfléchissaient à tout ça pour se permettre d'être encore plus eux-mêmes et retrouver le sens aussi de leurs valeurs, parce que parfois, la vie nous entraîne dans des moments plus exigeants, et retrouver le sens de sa propre valeur comme personne, ça, c'est une autre des expériences là. Je m'aventure peut-être sur un chemin. On n'a pas pu revenir avec tout le monde, mais je sens que ça a fait partie. En tout cas, c'était dans les objectifs. Donc, il y a aussi beaucoup d'avoir expérimenté différents outils sur le plan justement professionnel.
Effectivement, quand on dit rejoindre son parcours, je reviens encore au titre de notre voyage. Qu'est-ce que ça veut dire rejoindre son parcours? C'est se rapprocher de soi. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de soi? C'est se rapprocher de ses valeurs. Et l'outil sur lequel on a travaillé beaucoup pendant le voyage, c'était ça. C'était essentiellement un outil pour nous permettre de se reconnecter à ce qui est vraiment important pour soi. Et ça, je pense que ça a été assez concret à la fin du voyage, là, cette espèce de sentiment de s'être rapproché de soi. Est-ce que les gens sont partis avec des réponses? Pas nécessairement. C'est sont partis avec qui je suis et je suis heureux, je suis heureuse de m'être rapproché de moi, d'avoir eu cet espace-là pour revenir à qui je suis réellement. Après, les choix, puis la suite, ça va...
Vous avez utilisé tout à l'heure plutôt l'expression « la charge mentale » que vous avez libérée, donc vous vous êtes délesté.
Absolument. Et moi, l'analogie du sac à dos, Anne nous a beaucoup parlé de l'importance d'avoir un bon sac à dos. Donc, on s'est tous procuré des sacs à dos efficients. Et pour ne pas être, pour être plus léger et pouvoir marcher mieux, mais... J'ai l'impression que, moi, c'était l'image du sac à dos mental qui me revenait tout le temps. Puis de dire, j'ai l'impression que mon sac à dos se libérait à chaque fois, parce que nous, on l'a vécu aussi les participants. Oui. Et on a eu des témoignages aussi dans ce sens-là de dire, j'ai l'impression que mon sac à dos est de plus en plus léger. Et ça donnait souvent pour plusieurs un sentiment de liberté, un sentiment de légèreté qui est tout à fait opposé des fois à ce qu'on peut vivre dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, avec les exigences du quotidien de chacun, que ce soit familial, professionnel, à plein de niveaux. Donc, il y avait quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans cette libération-là de charge mentale et la nature, la présence attentive, un voyage bien organisé, ont permis, je pense aussi, de libérer cette charge mentale-là dont on entend beaucoup parler là actuellement.
Alors, Anne, vous êtes organisatrice, bien sûr. Vous avez mené plusieurs groupes informels, disons. C'est la première fois que vous vous lancez dans cette expérience de club, j'allais dire pas tout à fait, mais de groupe plus structuré, comme celui qu'on vient de décrire aujourd'hui. Quelles sont les grandes distinctions pour vous, ou les avantages, les nuances?
Je pense que accompagner un groupe sur un genre de chemin comme ça, parce que l'accompagnateur, l'accompagnatrice marche autant que les participants, fait découvrir les merveilles du chemin. Je pense qu'on a beaucoup ri dans ce voyage-là. Mm-hmm. Ça se démarque. Ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on est rempli de sérotonine et là, il y en avait vraiment un paquet. Accompagner tout ça, tu sais, découvrir ton énergie, découvrir la joie, te laisser aller, ajouter le volet psychologique de la recherche, de retrouver son parcours. Moi, je trouve que c'est comme un cadeau de la vie qui devrait être fait vraiment de façon plus publicisée ou je sais pas comment quoi dire parce que c'est en avec ce genre de voyage là que la santé mentale peut avoir des outils pour aller mieux. Si on y va en plus en prévention, on crée un monde meilleur, c'est automatique. Ça donne des outils, on devient des images, des exemples. C'est quand on revient, si on dégage qu'on va bien, ça donne le goût à d'autres peut-être de le faire et on devient comme un phare pour certaines personnes dans des périodes difficiles. Puis je pense qu'on s'en va, on s'en va, mais on est carrément dans une époque où on a besoin d'avoir des lueurs d'espoir, de dire ok, il y a des façons sans nécessairement la médication, parce qu'on s'entend que c'est de la marche, ben on favorise un monde meilleur. Je sais qu'il y a toutes sortes de façons d'accompagner des groupes, mais je pense que celle-là, avec des professionnels de la santé, ça devient un plus. C'est certain que ça c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est un grand plus. Et encore là, de le faire, de le refaire, d'être encore plus outillé avec les commentaires des participants, de l'améliorer, de l'amener encore plus loin. Je me dis, mon Dieu, mais dans 5 ans, on va être rendu où avec ça?
Ben, j'allais dire, l'expérience est concluante, si je comprends bien.
Elle est extrêmement concluante. Oui. C'est un projet pilote concluant.
Et elle sera reprise.
Elle sera reprise.
C'est l'intention,
certain.
Et en terminant peut-être, vos collègues dans votre domaine, comment ils ont réagi?
En fait, avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'enthousiasme aussi, parce que chez nos collègues aussi, c'est la première. En fait, nous, on n'avait pas entendu non plus ce type d'accompagnement-là. Sur une, il y a effectivement des accompagnements de courte durée, mais un accompagnement de longue durée comme ça, je pense que c'était assez innovateur aussi. Alors, les gens étaient curieux d'en apprendre plus, d'en savoir plus et un petit peu jaloux de cette belle expérience là qu'ils aimeraient vivre peut-être
et
éventuellement.
Vous allez propager la bonne nouvelle
absolument.
En temps et lieu.
Absolument.
Anne, Dania, José, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Plaisir.
Merci. Oui. Merci à tout le monde.
Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com. où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode, dont celui d'aujourd'hui. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires à propos de cette émission. Merci encore une fois à nos invités Anne Saint-Hilaire, Dania Ramirez et José Sabourin. Merci également à notre technicien complice et toujours souriant Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de Jacques Lanzmann. Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, sa place et sa vraie position, son équilibre mental et physique. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.